L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai avec de vrais gens et beaucoup d'animaux aussi. Aujourd'hui, il y aura le bruit des vagues aussi. Une fois par mois, l'association Bretagne Vivante vient nous promener dans un milieu sauvage pour en découvrir les merveilles. On prend l'air, on apprend. Et aujourd'hui, ce sera sur le littoral, la plage, qui n'est pas seulement une aire de jeu ou de bronzage, mais bel et bien un milieu avec des myriades d'espèces qui y vivent. Il y a du végétal, les algues notamment, et aussi de l'animal. Et c'est à ce règne qu'on va s'intéresser aujourd'hui avec Gavin Droual qui va nous enseigner l'art de reconnaître les petites bêtes du littoral. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes bénévole de Bretagne Vivante, de l'association, mais vous êtes passionné nature et en fait c'est par votre action apparemment à Bretagne Vivante que vous êtes devenu, enfin que vous avez peaufiné votre métier qui est taxonomiste. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours ?
Eh bien, comme tout le monde, en fait, ma passion pour la nature a commencé un peu avec les oiseaux. Et par la suite, y a un intérêt particulier à regarder tout ce qui bouge autour de nous. Donc là, j'ai commencé à regarder quelques petites bêtes dans les flaques. Et en effet, par les actions via Bretagne Vivante, via la rencontre aussi avec certains chercheurs, j'ai voulu m'y spécialiser, j'y ai passé du temps. Et au gré des rencontres, au gré des sorties, au gré des stages, en effet, j'en ai fait mon métier, tout en restant bénévole aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'important.
C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs,
voilà,
aujourd'hui.
D'ailleurs.
Ouais.
et donc, cette passion, en fait, j'ai donc cette chance de pouvoir en vivre et de pouvoir la transmettre.
Oui, et donc vous travaillez, alors on fera une autre émission sur votre métier stricto sensu taxonomiste, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est
Donc c'est entre guillemets l'art de reconnaître les animaux, de les étudier de manière un peu plus approfondie. Pour par exemple un taxonomiste, ça va être un spécialiste dans un groupe zoologique, et donc il a cette capacité de détecter des espèces non indigènes qui peuvent par la suite poser des problèmes, comme les espèces invasives, mais aussi cette capacité à décrire des nouvelles espèces pour la science. C'est aussi des personnes qu'on contacte quand, par exemple, des pêcheurs commencent à détecter des espèces qu'ils n'avaient jamais vues. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est, voilà, on contacte ces spécialistes-là.
Et vous faites ça pour l'Ifremer.
Exactement.
J'ignorais que l'Ifremer avait des taxonomistes. Mais bon, et alors, en plus, vous avez créé une appellation. Enfin, ce n'est pas vous directement, mais vous êtes estranologue, c'est-à-dire que vous, la taxonomie, les espèces que vous qualifiez, que vous connaissez, c'est celle de l'estran, c'est ça ?
Exactement. En fait, c'est parti initialement d'un postulat qui fait que la taxonomie, c'était quelque chose de très courant dans la recherche, dans les années à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et même avant. Mais après, ça a commencé à diminuer à partir des années 70, 80, 90 avec l'outil génétique. Parce qu'on pensait que la génétique allait pouvoir remplacer justement cet aspect-là.
Ah oui, il allait pouvoir classifier toutes les
espèces.
Et exactement. En fait, non.
Sauf que c'est pas aussi simple que ça. En fait, les deux sont complémentaires. On appelle ça d'ailleurs la taxonomie intégrative. Maintenant, on a besoin des deux. Donc, on travaille main dans la main. Mais il y a eu un effet néfaste. C'est que du coup, on accordait moins d'importance aux taxonomistes et aux naturalistes. Et donc, il y en a eu de moins en moins. Dans le domaine académique. Mais par contre, il y avait toujours des passionnés. Pas forcément des personnes qui avaient fait des études en sciences, mais des passionnés de nature qui savaient identifier. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que comme le savoir commençait à disparaître de la recherche, en fait, c'était d'essayer de fédérer les naturalistes bénévoles, les naturalistes citoyens, pour justement éviter de perdre de l'information sur la biodiversité. Et donc c'est dans ce cadre-là que Jacques Gral, chercheur à l'IUM, et Christian Ely, qui était chercheur aussi à l'IUM, l'Institut Universitaire Européen de la Mer, à l'UBO, on a créé l'Observatoire breton des changements sur l'estran, pour justement fédérer ces bénévoles, créer des listes de biodiversité et faire évaluer cette biodiversité-là.
Alors l'IUM, comme il s'occupe de la mer, mais il a choisi l'estran. Alors l'estran, c'est la zone en fait entre la marée haute et la marée basse, c'est ça
En effet, c'est tout à fait ça. En fait, donc à marée haute, on voit la mer, on voit la plage qui est tout le temps hors d'eau. Puis à marée basse, il y a cette zone qui nous était inaccessible, cette zone où en fait ce sont que des animaux marins, que des des plantes, donc les algues. Il y a aussi quelques phanérogames comme les austères, les herbiers austères, qui sont des graminées qui peuplent une frange peu profonde.
Qui sont dans le règne végétal, on
exactement.
Va dire.
Exactement.
On dit règne toujours.
On peut dire règne, il y a plusieurs mots, mais oui, règne, ça fonctionne très bien. Et donc, en effet, l'estran, c'est cette zone intertidale, donc entre les deux marées, entre la marée haute et la marée basse.
Et pourquoi l'IUEM a choisi ce milieu-là spécifiquement pour faire l'observatoire ?
C'est pas l'IUEM qui a choisi, c'est que, c'est surtout là le fait qu'on soit bénévole à Bretagne Vivante et qu'il fallait aussi donc fédérer ces bénévoles-là et les bénévoles naturalistes. Il est bien plus facile d'aller sur l'estran que d'aller en plongée, prospecter des zones profondes, etc. En fait, c'est qu'on a accès à une biodiversité et de manière très facile. Et en plus de ça, en Bretagne, on a des milieux qui sont extrêmement diversifiés.
À condition d'avoir des bottes.
L'été, on peut y aller en sandales.
Oui, c'est vrai, tout à fait, ou pieds nus même. Et c'est Bretagne Vivante uniquement les bénévoles ou ça peut être d'autres associations éventuellement qui sont dans cet observatoire
Alors, il y a Vivarmor, et notamment avec Estran 22 aussi. Après, il peut y avoir d'autres associations qui viennent. Il y a eu Graines d'Océan aussi, qui continue à nous transmettre quelques données. Donc, il y a plusieurs volets, ouais, en effet.
Et combien de personnes à peu près
En tout bonne question. Ouais. Je crois qu'on est plus de 100, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça.
Et aux journées des estranologues, donc on se réunit histoire d'avoir une certaine communication entre les groupes, parce que l'observatoire, en fait, c'est plusieurs groupes disposés le long du littoral breton.
Ouais, c'est que la Bretagne.
Exactement, là. Exactement. Mmh. Et donc il y a quand même plusieurs heures de route entre nous, et donc c'est quand même intéressant de savoir déjà ce que tel groupe voit comme bête et ce que les autres ne voient pas, de partager les connaissances. Donc on se fait des ateliers d'identification. Et aussi, ça permet de créer une émulation. Et donc, on se voit une fois par an entre bénévoles.
Mais est-ce qu'il faut être scientifique pour être estranologue ou est-ce que juste la passion peut suffire
La passion, tout simplement. Ouais. C'est comme dans l'ornithologie. En fait, il y a des gens qui vont faire des études qui vont être ornithologues scientifiques. Mais si on regarde certaines données, en fait, les spécialistes qui savent réellement reconnaître, ça peut être clairement des personnes, des citoyens lambda qui passent énormément de temps dans la nature et qui, du coup, développent une connaissance empirique et une expertise incroyable.
Et donc, vous leviez les yeux et tout à coup, on vous a dit plutôt de les baisser vers l'estran. Mais j'imagine que ça vous a passionné, sinon vous ne seriez pas là. Est-ce que vous avez une sous-spécialité c'est-à-dire que vous, c'est vraiment les animaux. Est-ce que vous identifiez aussi les végétaux
Alors, dans le cadre de l'Observatoire breton des changements sur l'estran, on identifie tous les groupes zoologiques. Après, à titre personnel, j'ai une certaine affinité pour les vers et notamment un certain type de vers, parce qu'il y en a plusieurs, les plats helminthes, il y a des vers tout lisses, comme les nématodes, mais ce que j'affectionne le plus, c'est le groupe le plus diversifié, c'est les annélides polyquettes.
Donc, et ça, il y en a sur l'estran.
Exactement. Les annélides, en fait, c'est un peu comme des lombrics, donc des vers annelés. Et polyquettes, ça
avec
veut dire
anneaux,
qu'ils ont
quoi, c'est ça,
exactement. Ouais. Ça veut dire donc un peu comme un collier de perles en fait.
Okay.
Ça a une forme moniliforme, c'est que chaque boule va représenter une annelure et sur chaque petite boule de perles, faut imaginer qu'il y a plusieurs soies, d'où polyquettes.
Ah,
et en fait, c'est un groupe en France où il y a plusieurs centaines d'espèces. C'est incroyable.
Même en Bretagne, présent.
Même en Bretagne. Ouais. Rien que sur la Bretagne, on est à plusieurs centaines d'espèces de tailles différentes. En deçà de millimètres jusqu'à 65 cm, des formes différentes, certains qui font des tubes fixés, d'autres qui sont libres, prédateurs, qui vont chercher leur proie, avec des stratégies de reproduction différentes. Certains vont arrêter de manger, par exemple, leur corps va se transformer en sac de gamètes et ils vont exploser. Et les gamètes vont se rencontrer dans la masse d'eau. D'autres ont la capacité de bourgeonner. Ils vont avoir des petits qui vont sortir du dos, par exemple.
On est en pleine science-fiction, mais non.
C'est incroyable, c'est un groupe incroyable. Certains vont... c'est un groupe important aussi pour des cycles biogéochimiques, pour la dégradation de la matière organique dans les sédiments, parce que certains vont faire des tubes.
Alors, par exemple, quand on est sur la plage, justement, à marée basse, on voit des petits tortillons, là. C'est eux,
Exactement. En grande partie, c'est l'arénicole. Et c'est un annélide polyquette, en effet, qui va faire un tube en U, et où il va absorber du sédiment par un côté Et par l'autre côté, son tortillon, il va, voilà, c'est l'équivalent de
ses fesses. Il le transforme, le sédiment, ou pas spécialement
Non, il ne le transforme pas, la granulométrie reste la même. C'est juste qu'il va retirer en fait, de la matière organique dont il va, qui va subvenir à ses besoins alimentaires.
Il va manger comme ça, quoi, en fait. Ce n'est pas juste pour creuser des galeries, pour s'amuser.
Ah
quoi.
Non, ce n'est pas pour s'amuser.
Mais est-ce que ça apporte peut-être une aération? Enfin, je ne sais
exactement.
Pas, c'est important.
Ouais. Exactement. Mmh. En fait, par exemple, sur la dégradation de la matière organique, la meilleure façon de dégrader des molécules, c'est de le faire via l'oxygène. Ça, c'est des bactéries, des champignons, d'autres organismes qui vont s'en occuper. Et donc, vous avez déjà creusé dans le sédiment. Des fois, quand on creuse à une certaine profondeur, ça devient tout noir. Et donc ça, c'est de l'hydrogène sulfuré. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène. Ça ne se dégrade plus. Et donc, en fait, les polyquêtes, dont la rainicole, en amenant de l'oxygène dans le sédiment, va justement oxygéner ce sédiment-là. Et donc améliorer la dégradation de la matière organique.
Bon, alors là, je me rends compte qu'on pourrait faire des millions d'émissions avec vous. Le littoral, donc, il y a l'estran, puis il y a aussi la plage, enfin, il y a d'autres milieux, hein, on est d'accord sur le littoral. Bretagne Vivante a publié un guide qui s'appelle « Petite bête du littoral, quel est ton nom ?» auquel, je suppose, vous avez participé.
Un peu, de loin, voilà. Mais il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs. Il y a ce guide-là, et sous peu, il y a une plaquette. Voilà.
Alors voilà. Oui, qui s'appellera.
Qui s'appellera les 50 bêtes communes des estrans rocheux de Bretagne. Donc en fait, il y a plusieurs guides qu'on peut trouver sur le site de Bretagne Vivante. Et donc cette plaquette-là, qui a été d'ailleurs en partie financée grâce à des dons d'une émission, Les Super Pouvoirs de l'Océan, donc organisée par France TV et France Nature Environnement. Et donc cette plaquette, en fait, c'est 50 organismes facilement identifiables, parce qu'en fait, sur l'estran, il y a aussi des choses très compliquées à identifier, qu'il faut disséquer, ou alors il faut une lobe binoculaire, voire même un microscope. Sauf que là, dans cette plaquette-là, les bénévoles de Bretagne Vivante ont fait une liste d'espèces, ont créé cette liste d'espèces pour que ce soit, sans outils, quelque chose qu'on puisse identifier, comme ça.
Ah oui.
Voilà, à l'œil nu.
Bon. Et sans trop perturber le milieu aussi, sans aller
bien
à creuser,
évidemment.
Etc. Quoi. Ouais.
Bien évidemment.
Moi, je ne reviens pas de tout ce que vous me dites sur les vers. Enfin, je les vois les tortillons, mais j'ai l'impression d'avoir jamais vu un ver en vrai. Enfin.
Quand on les regarde au microscope, on voit leur réelle beauté, je dirais. Parce qu'en fait, certains, par exemple, on va voir les vers. Bah, dans la société, en règle générale, les vers, ça a mauvaise réputation.
Pas très apprécié.
Sachant que les vers qu'on a en tête, c'est le ver, par exemple, du compost qui dégrade nos déchets, etc.
Bah, ils sont bien utiles.
Exactement, voilà. Ils sont bien utiles. Mais un annélite polyquette qu'on trouve sur l'estran et qu'on met sous une lobe binoculaire, certains, vont créer des iridescences, comme un arc-en-ciel. Ça diffracte la lumière. Certains ont des soies tellement épaisses et jaunes d'or. On dirait réellement de l'or, comme des petits bijoux. Il y a toute une diversité.
Donc vous, les animaux que vous étudiez, ils ont de quelle taille à quelle taille? Enfin, quelle est la fourchette de taille, en gros?
Alors, dans le cadre de l'OBCE, on regarde, en fait, le principe de... On est parti sur un principe assez simple dans le cadre de l'OBCE, c'était que les animaux soient identifiables à l'œil nu. Ou, au grand maximum, avec une petite loupe d'entomologiste. Cette petite loupe qui grossit, qui fait un grossissement à x10,
c'est un œil,
une sorte de petit monocle. Parce qu'en fait, une lobe binoculaire et un microscope, ça coûte cher. Donc si on veut faire un projet de science participative, il faut que ce soit accessible. Et en fait, déjà, rien que là, on arrive à 600, 800 espèces facilement, rien qu'avec nos petits yeux sur l'estran. Les plus expérimentés, ils arriveront à identifier des bêtes de l'ordre du demi-millimètre. Et on va jusqu'à des bêtes qui peuvent faire, je ne sais pas, 60 cm, même un peu plus. Le congre, par exemple, des gros congres, ça fait facilement 1 mètre, 1 mètre 50.
Ah oui, vous comptez aussi les poissons, ils ne sont pas vraiment dans l'estran, ils sont dans l'eau.
Sur les poissons, il y a plusieurs écologies. C'est un peu comme chez les annélites polyquettes. Chez les poissons, il y en a qui sont pélagiques. Donc ça, on l'a très bien en tête, c'est des poissons qui nagent. Mais par exemple, il y a la famille des lépadogastères. En fait, c'est des tout petits poissons qui font de l'ordre de 2-3 cm. Le plus gros, 5-6 cm, la taille d'une crevette. Mmh. Et qui ont une sorte de petite ventouse sur le ventre. Et en fait, eux, on ne va pas les trouver en train de nager dans la masse d'eau. Ils vont rester sous les cailloux, là où il y a de l'eau, parce qu'ils Ils ont besoin d'eau pour pouvoir respirer, bien évidemment. Mais dans des flaques sous les cailloux, et ils vont rester là. C'est leur petite maison. D'ailleurs, les femelles vont pondre des petits œufs. Ils vont tapisser toute une petite surface. Et les femelles vont rester là, à protéger les œufs et à les oxygéner. Donc en fait, eux, ils ne bougent pas.
Et quand c'est marée haute, ils s'accrochent bien avec leur ventouse et ils attendent que ça passe, quoi.
Alors l'avantage de vivre sous un caillou, c'est que l'hydrodynamisme, la courantologie est grandement diminuée. Donc même s'il y a des vagues, c'est quand même un peu atténué. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'estrants et notamment plusieurs types d'exposition à la houle. Et ça va conditionner la présence ou non de certaines bêtes. Car certaines bêtes vont plutôt préférer des milieux abrités à la houle. Alors que d'autres, des très spécialisés, vont être plutôt adaptés à des milieux battus. Donc là où il y a carrément des grosses vagues, des zones exposées. Là où des grosses vagues vont venir se casser. Bien évidemment, la majorité de la biodiversité va préférer des environnements plus abrités. Donc en fait, il y aura un gradient en termes de diversité avec un faible nombre d'espèces dans les milieux battus et un plus grand nombre d'espèces dans les milieux abrités.
Et d'où l'intérêt d'avoir plein de types de plages comme en Bretagne, en fait.
Exactement.
On a tout, nous.
Exactement.
Enfin, c'est ça, oui.
En fait, on a cette chance en Bretagne, c'est d'avoir plein de types de milieux. Pour donner une idée de la diversité des milieux, c'est que je vais d'abord commencer par le socle. Donc, par exemple, on imagine bien un socle rocheux. Mais on n'a pas que ça en Bretagne. Il y a aussi des plages de sable,
oui.
On a de la vase. Donc ça, c'est juste le socle. Ensuite, il peut y avoir, du coup, l'impact de la houle, comme je l'ai exposé. Milieu abrité, milieu battu. À cela, on va ajouter aussi des environnements qui peuvent être créés par des organismes. Donc, par exemple, les herbiers de zostère, les forêts de laminaires, des bancs de merles, comme on a dans la rade de Brest. Et à cela s'ajoute encore la variation de salinité. Parce qu'on a des estuaires en Bretagne sous influence d'eau douce.
Donc ça dilue le sel.
Exactement.
C'est moins salé.
Et à l'inverse, des milieux marins, où là, c'est clairement l'océan. Et là, quand on regarde la Bretagne, on a non seulement chacun de ces habitats-là, mais aussi le mix de tout ça. Et comme on a une côte très découpée, on a une diversité extraordinaire d'habitats. Et donc une faune associée qui est aussi spécifique.
Gabin Drouet est taxonomiste, il connaît bien la faune notamment. Et alors, j'avais repéré dans le guide dont on parlait tout à l'heure de Bretagne vivante sur les petites bêtes du littoral, j'avais repéré une dizaine de familles, enfin d'embranchements. Donc vous avez parlé des vers, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez m'en parler d'autres? En tout cas, ceux de l'estran, peut-être pas.
Voilà. En fait, du coup, comme sur Terre, en fait, les animaux marins sont organisés dans l'arbre du vivant, l'arbre phylogénétique, et il y a en effet plusieurs grands groupes, plusieurs embranchements. Donc j'ai parlé des vers, mais on ne trouve pas que ça sur l'estran. On va trouver aussi les arthropodes. Donc là, c'est toutes les petites bêtes avec des pattes articulées, comme leur nom l'indique. Donc là, on va trouver les crabes, les crevettes, les puces de mer, les cloportes, parce que oui, dans la mer, il y a des petits cloportes. On appelle ça les isopodes.
On les voit facilement, c'est vrai. C'est peut-être les plus connus du grand public, on va dire.
Alors, je pense que le plus connu, ça va être les puces de mer. Donc, ces petites puces de sable, on appelle ça du coup les talitres. Donc, les petites puces de sable qui sortent, qui viennent nous chatouiller et qui remplissent nos serviettes, là. Mais en effet, les cloportes, il y a la lygie qui est très proche des cloportes terrestres et qui d'ailleurs passe son temps plutôt en dehors de l'eau. Et qui est vraiment en haut, tout en haut d'estran, et qu'on voit énormément la nuit, notamment, ou les journées très humides.
Assez grosses parfois, d'ailleurs. Hein,
combien
de centimètres?
3 à 4 centimètres, pour les plus grosses, facilement. En groupe zoologique, il y a bien évidemment les mollusques. Ceux-là, ils sont assez faciles. Donc, les corps mous. Donc, il y a les escargots, les gastéropodes, il y a les bivalves, comme par exemple les huîtres. Bivalves, ils ont deux valves, les huîtres, les moules. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les céphalopodes, les sèches, les petites sépioles, les poulpes. Il va y avoir les éponges. Les éponges, donc c'est des organismes, donc ce sont des animaux, hein, mais c'est des animaux fixés, donc soit sous forme de boules, en croûtant, dressés, souvent colorés ou pas, mais en Bretagne, sur l'estran, il y a souvent une couleur orange, jaune, vert, des fois bleu.
Et ça, c'est des éponges.
Ça, c'est des éponges. Ouais. Donc ça, c'est des animaux qui vont filtrer l'eau de mer. Ça va rentrer dans les tissus. Il faut imaginer l'éponge hein, à la maison. Il y a l'éponge jaune, il y a des petits trous. Et ben, faut imaginer que c'est presque comme ça dans une éponge animale. L'eau va rentrer, va passer dans ces trous-là. Dans ces trous, il y a ce qu'on appelle il y a des petites cellules qui vont en fait récolter du plancton, de la matière organique, et l'eau va ressortir filtrée. Il y a quoi ? On a parlé des poissons, aussi.
Oui, voilà.
Y a des cnidaires, les anémones. Mmh. En fait, les cnidaires, la caractéristique commune des cnidaires, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des cnidocystes. C'est des cellules urticantes. Alors, faut pas avoir peur. Hein.
Oui, on peut toucher les anémones en général, ça fait pas grand-chose.
Voilà, hein. C'est ouais. Ça. Ça fait pas grand-chose. En fait, c'est spécifique pour leur proie. Et ces cellules urticantes, ça va leur permettre de tuer leur proie, tout simplement. Et je terminerai par les échinodermes. Les échinodermes, donc, c'est les étoiles de mer, ouais. Les oursins, c'est les concombres de mer. Et les moins connus, ça va être les ophiures, qui sont des cousines.
C'est très joli,
voilà,
ça.
C'est très délicat.
Ouais. C'est des petites étoiles aussi.
Exactement, c'est comme des étoiles de mer. Alors, pour les différencier des étoiles de mer, les bras sont indépendants. Chez les étoiles de mer, la base des bras se touche tous, alors que chez l'ophiure, ils sont tous indépendants.
Et quand on trouve des squelettes d'ophiure, c'est vraiment... Enfin, c'est des squelettes, je ne sais pas si on... Non, ce n'est pas vraiment des squelettes.
Alors
on trouve des ophiures, mais minéralisées, qui ont l'air mortes, en tout cas.
Est-ce qu'elles le sont vraiment?
Je ne sais pas.
Si elles ont leurs bras bien attachés, pour moi, elles sont vivantes.
Ah ouais, ouais. Mais elles se mettent en dormance, alors
Alors, c'est juste qu'elles vont attendre. Elles vont être actives, parce que si on retourne le caillou et qu'elles se retrouvent en dehors de l'eau, soit elles se mettent à bouger. Donc, il y en a beaucoup qui vont commencer à bouger de manière frénétique pour retourner dans l'eau ou au moins dans une zone sombre. Après, certaines, comme de un peu plus grosses, les ophiura, elles, en effet, elles vont tendance à rester, elles vont rester statiques. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas vivantes.
Vous n'avez pas parlé des méduses. Enfin, on a eu beaucoup d'invasions de méduses, hein. C'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais, alors là, c'est un peu plus pélagique. En fait, pour préciser un peu plus ma spécialité, c'est que je suis bentologue. Et donc, le bento, c'est ce qui vit sur le fond. Les méduses, elles sont plutôt dans la colonne d'eau. Mais en effet, on trouve des méduses. En fait, dans le cadre de l'OBCE, on n'en a pas non plus tant que ça. Certaines qui peuvent être prisonnières dans des flaques d'eau. Mais au final, non, c'est pas, on n'en a pas beaucoup. Ce n'est pas leur milieu dans tous les cas.
Oui, c'est ça. Ouais. Si elles sont là, c'est qu'elles sont un peu finissantes, en
exactement,
fait.
Exactement. Exactement.
Ouais. Bon. Donc, c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'estran, c'est un milieu extrêmement contraint. C'est ça qui est intéressant, qui a justement favorisé une évolution étonnante. Enfin...
C'est impressionnant l'adaptation de certaines espèces. Les espèces du haut d'estran, elles passent, c'est des animaux marins, hein. Par exemple la patelle, le brinique ou la bernique, c'est un mollusque marin. Et pourtant, elle passe la plus grande majorité de sa vie en dehors de l'eau. Et donc elle est adaptée à la dessiccation, qui est très important, surtout là actuellement il fait très froid, donc il faut imaginer que ils sont pas comme nous, ils ont la même température que leur environnement. Donc là s'il fait 2 degrés dehors, peut-être que la patelle elle aura 3 degrés. Donc déjà le stress thermique, et l'été ça fait l'inverse. L'été si on a une nuit à 15 degrés et que la journée après il fait 30 degrés, et ben pareil, son corps va osciller en température.
D'accord. C'est ça la dessiccation, c'est l'oscillation.
Alors ensuite j'allais parler de la dessiccation, c'est le fait que l'humidité va totalement disparaître s'il fait très beau.
Oui.
Et l'inverse, va y avoir le stress osmotique. Par exemple, c'est
du sel.
Exactement. Ouais. Donc, une journée très chaude, ça va avoir tendance à augmenter la salinité dans les flaques d'eau. Et à l'inverse, lorsqu'il pleut, ça diminue la salinité. Ouais. Et donc, tout ça fait qu'en fait, c'est des animaux hyper spécialisés et qui vivent dans un milieu très stressant. Tellement stressant que si on regarde la diversité sur l'estran, si on fait une coupe de l'estran, la diversité en haut d'estran est bien moindre que celle en bas d'estran. Et ça, c'est engendré par le stress.
Ah ouais.
Tout simplement.
Et alors, on pourrait se dire, du coup, ils ont connu ce milieu extrême, ils sont adaptés, donc ils sont solides, mais peut-être me trompais-je, et peut-être sont-ils fragiles du fait de l'activité humaine, notamment.
Alors, il y a des menaces, en effet, et comme partout, et c'est divers. Alors, il y a des endroits qui vont être plus menacés que d'autres, ou plus, du moins sous perturbation. Ces perturbations-là, elles sont diverses. Ça va de l'eutrophisation à l'urbanisation du milieu marin, avec par exemple les ports, les digues, etc. La pollution sonore, il y a des pollutions chimiques, etc. Donc en effet, il y a des perturbations qui ne sont pas que naturelles, qui sont anthropiques. Et qui peuvent engendrer, en effet, une perte de biodiversité dans certains endroits.
Soulever les cailloux et ne pas les remettre, par exemple.
Voilà, on pourrait commencer déjà, en effet, par ça. C'est que, en moyenne, ça met entre 3 à 5 ans, un caillou, à retrouver un état stable. Tout simplement, la diversité sous un caillou, elle n'est pas la même qu'au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une certaine humidité, un environnement favorable. Et donc, quand on retourne un caillou, les animaux qui sont au-dessus vont tout de suite se retrouver à la lumière, à la dessiccation. S'il pleut, ça va être une diminution de la salinité. Et donc, très vite, en fait, dès que le caillou est retourné, si on le laisse ne serait-ce qu'une demi-heure au soleil, ça y est, c'est déjà quasiment fini, si on ne le remet pas en place.
Ah oui.
Très vite, ce caillou-là, donc les algues, la faune, va disparaître. Si on revient plusieurs mois après, en fait, va y avoir un enchaînement, on appelle ça une succession écologique des communautés. Dans la première année, ça va être des algues vertes, on appelle ça des espèces pionnières. Un peu comme quand, par exemple, il y a une perturbation sur Terre, on enlève une forêt, on n'aura pas tout de suite des grands arbres au bout d'un an. En fait, il y aura des espèces pionnières. Donc là, dans l'occurrence, ça va être par exemple des algues vertes. Puis ensuite, ça va prendre le relais avec un peu d'algues rouges, un peu d'algues brunes, jusqu'à un état stable au bout de 3 à 5 ans.
Ah oui.
C'est donc extrêmement c'est long quand même.
En effet. Donc on remet les cailloux.
Exactement.
Bon, on va devoir s'arrêter là, mais on va inviter les gens à attendre que le guide des 50 espèces animales des estrons rocheux sorte déjà. Ce sera sur le site de Bretagne Vivante, je suppose, en janvier.
Oui, mais pas que. En fait, ce sera aussi à le dialogue dans les capitaineries, sur tous les événements naturalistes. Ça va sortir sous peu.
Merci beaucoup Gavin Trouval et puis à bientôt là, je promets qu'on retrouvera
Gavin beaucoup.
Sur l'antenne de Transistor. Merci.